Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Il est tout à fait possible de construire sa maison sur un terrain humide. Cependant, vous devez bien entendu respecter quelques contraintes. D'après les experts, il existe aujourd'hui des techniques de construction adaptées au terrain marécageux. Les professionnels peuvent vous faire bénéficier de leur savoir-faire sur l'analyse des terrains et sur les solutions les plus adéquates en fonction, bien sûr, de vos moyens. Alors, nous avons en ligne Apollinaire Kitenge, il est architecte, il va nous dire qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les précautions à prendre avant de construire sur un terrain marécageux, un terrain humide. Apollinaire Kitenge, encore une fois, bonjour. Alors dites-nous, avant de s'engager, sûrement il y a des gens qui ont des projets ces débuts d'année, construire, peut-être que quelqu'un a déjà trouvé un terrain mais quelque part, mais c'est un terrain marécageux. Alors avant de s'engager, avant de commencer à construire, quels sont les préalables ou les précautions que cette personne doit prendre?
Merci beaucoup, Jody. D'abord, je dois vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez. Et d'entrée du jeu, je dirais que vous avez déjà évoqué quelque chose au début, c'est-à-dire il y a des procédés généraux de construction qu'on respecte pour un terrain ou une terre humide avant d'ériger quelque chose ou de construire une maison. Il n'est pas seulement une maison, il y a aussi des édifices à différents caractères. Les procédés généraux de construction consistent à voir, à connaître un peu la nature du terrain, à voir les échantillons du sol et qu'on peut amener au laboratoire afin de déterminer la capacité portante du terrain ou soit les tissus qui composent le terrain, si c'est un terrain argilé, si c'est un terrain sablonné ou si c'est un terrain marneux ou c'est des tourbes qu'on y trouve. En ayant déjà ces échantillons et en faisant ces études au préalable au laboratoire qui vont vous déterminer les types de fondations ou les types d'assises sur lesquelles on sera supporté l'infrastructure ou bien la structure bâtiment en question. Voilà.
Voilà, donc au préalable, il faut prélever un échantillon et l'apporter au laboratoire pour déterminer quel type de terrain il s'agit. Alors, qui est censé faire ce travail-là?
Bien sûr, c'est l'État d'abord qui est censé apporter à la connaissance du public avec son laboratoire scientifique, qui pratiquement les gens savent, c'est au niveau de TP ou à l'Office des routes ou à la faculté de polytechnique ou encore à des entreprises qui sont censées travailler dans les génies civils. En y apportant ces échantillons, et, ou soit si vous voulez les données sans pour autant faire les études de prélèvement, vous arrivez à ces laboratoires. On va vous donner à tel type de terrain, parce qu'ils en ont fait sur toute la cartographie de la République démocratique du Congo.
Oui.
Ils sont censés connaître qu'à telle région ou à tel espace, c'est tel type de sol qu'on a et la capacité portante et de telles teneurs qu'ils vont vous donner. Et c'est à ce moment-là que les ingénieurs qui vont travailler vont vous dire que à cet instant, votre type de fondation sera de telle, et la profondeur, la hauteur et la capacité portante, elle est de telle. Voilà.
Mais aujourd'hui, nous savons comment les terrains se distribuent. Les gens vont acheter auprès des chefs coutumiers. Il y a pas d'études au préalable. Et les gens commencent à construire tel quel. Alors, dans ces conditions-là, dans cette ambiance-là, comment s'y prendre exactement?
Bon, vous savez, au moins, ces désordres à durer des décennies durant, on ne sait pas aussi d'où viendra la solution. Ben, on espère que l'État qui est responsable du sol et du sous-sol est capable à pallier à cette situation. Mais qu'à cela la tienne, on se lance sans pour autant passer à toutes ces péripéties qu'il faut dire passer au laboratoire, avoir des données au niveau de l'État. Mais il y a aussi ceux-là qui ont la capacité, l'intelligence, en ayant un peu ces études approfondies, peuvent vous proposer quel type de fondation ou quel type d'édifice qu'il faut ériger à ce type de sol. Mais aussi, il y a aussi certaines zones qui sont carrément interdites de construire, mais il n'y a pas assez de moyens suffisants. C'est pourquoi on dit aussi que ce sont des zones non-edificandi. C'est-à-dire que ce sont des zones qui ne sont pas autorisées à construire. Mais malheureusement, actuellement, on y trouve des édifices érigés à ces espaces. Voilà.
Bien, mais certains disent que pour construire sur un terrain marécageux, il faut prendre le temps, par exemple, de remblayer jusqu'à ce que l'humidité va complètement disparaître.
Pas nécessairement, je dis, parce que quand on fait les remblais, il faut voir quel type de remblais qu'on fait. Ce n'est pas avec des immondices qu'on remblait un espace qu'on évite l'humidité. L'humidité fait de quoi? C'est-à-dire, il y a la remontée capillaire. C'est-à-dire, les ondes qui sont sous sol trouvent des orifices pour monter et peuvent monter jusqu'à la surface. Et si on arrive à construire un bâtiment ou un édifice sans pour autant respecter les normes et les indications requises. Bien sûr, on peut faire un remblai, mais avec un compactage, avec des méthodes exigées. Et quel type de remblai qu'on va y apporter, hein? On peut avoir de la territe, on peut avoir de l'argile, on peut avoir du sable, mais on sait au-dessus de ça quel type de fondation qu'on peut travailler. Mais on peut faire les remblais, c'est quand on aura à faire peut-être un radier général. Mais quand on a les types de fondations profondes, ou bien des semelles isolées, ou bien on fait des semelles filantes, là on est censé fouiller le sol, arriver jusqu'à un sol capable de supporter ce type de fondation. Et aussi, même si on faisait ce type de fondation, on va utiliser un mortier nécessaire et capable à répondre à ces exigences. Et cette fondation aussi, en utilisant ces mortiers, c'est-à-dire on y ajoute des adjuvants capables de durcir ou d'amener le mortier à ne pas permettre à ce qu'il y ait des remontées des eaux. Voilà.
Voilà. Donc d'où il est toujours important de recourir aux spécialistes avant de s'engager, parce qu'il y a des gens qui ont construit sur des terrains marécageux et plus tard ils connaissent l'humidité dans la maison et ils savent pas comment s'en sortir.
Bien sûr, je dis, c'est ça la maladie qui gangrène notre société, ne pas recourir aux spécialistes qui sont censés vous donner des conseils. Je donne toujours cet exemple le plus simple. Quand vous avez un mal à la dent, vous n'allez pas voir un ophtalmologue, vous n'allez pas voir un charpentier, vous allez voir un dentiste qui est censé vous donner des conseils nécessaires, ou soit s'il faut extraire la dent, ou soit s'il faut plomber, ou soit vous donner certaines méthodes. C'est la même chose quand on veut construire, il est censé aller vers les personnes qui ont eu à acquérir cette connaissance et qui ont eu aussi toutes les capacités nécessaires, pas nécessairement les individus, il y a aussi les structures de l'État. Ce n'est pas pour rien, quand on veut ériger une structure, on va au bâtiment civil pour obtenir un permis de construction. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des architectes et des ingénieurs qui sont censés vérifier cet édifice, voir la zonification de l'endroit et les types de fondations par rapport à votre structure avant de vous octroyer les permis de bâtir. Voilà.
Quelles précautions prendre avant de construire sur un terrain marécageux? Le sujet vous intéresse? Vous avez un projet de construction? N'hésitez pas à appeler au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, chaque vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Quelles précautions prendre avant de construire sur un terrain marécageux? Ingénieur Apollinaire Kitenge, dites-nous, alors, auprès de qui faut-il s'adresser pour quelqu'un qui a un peu d'argent? Il a trouvé son terrain, il doit s'adresser à qui exactement pour faire l'étude du sol et puis lui déterminer quel type de fondation il faut ériger à cet endroit-là?
Oui, je voudrais juste rectifier un tout petit peu, il y a un petit chat à la langue là, je ne suis pas ingénieur, malgré que j'ai fait les études d'ingénieur, je suis architecte.
Allez-y. Oui.
Voilà, auprès de qui on peut s'adresser? D'abord, on s'adresse soit à un architecte, l'architecte qui va mener les études prémonitoires, et l'architecte qui a aussi dans son équipe, si cela l'exige, des ingénieurs, les ingénieurs en construction, les ingénieurs en hydraulique, les ingénieurs aussi de route, parce que c'est là, il y a des topographes, il y a aussi des autres qui ont fait le génie civil, qui sont censés apporter les leurs à cette préparation du dossier ou soit à ces études prémonitoires afin d'aller soumettre, comme je l'ai dit tantôt, au bâtiment civil qui a aussi des ingénieurs et des spécialistes qui étudient les sols également et toutes sortes de structures y afférentes à ce genre ou à ce type de structure à construire. Voilà.
Bien, nous parlons de...
Je crois que j'ai répondu à votre préoccupation.
Oui, bien sûr. Donc, il faut voir les architectes pour qu'ils peuvent... Mais aujourd'hui, qui est architecte et qui ne l'est pas? Parce qu'il y a aussi beaucoup de charlatans dans ces secteurs aujourd'hui.
Oui, voilà. C'est pourquoi on dit dans les domaines, maintenant, il y a ce qu'on appelle des tout-venants. Tout le monde, quelqu'un qui était appelé à porter des clous ou bien couper les armatures à un chantier, il s'est retrouvé du jour au lendemain un architecte ou un ébéniste qui a fait de meubles et qui vous dit qu'il est architecte. Il y a aussi quelqu'un qui a tenu une théodolite ou quelque chose comme ça, qui vous dit qu'il est architecte, il est capable de le faire. Mais vous êtes censé ignorer que l'architecte, c'est celui qui a fait pratiquement 6 ans d'études universitaires, ou un ingénieur civil en construction qui a fait les mêmes études, qui sont censés vous apporter. Bien sûr, on se dit l'architecte, c'est celui qui conçoit. Mais en lui, c'est comme un chef d'orchestre qui s'entoure avec des ingénieurs ou, qui sont capables aussi d'apporter un plus dans cette connaissance et de quel type de fondation ou bien des types de structures qu'on peut utiliser à ce genre de terrain. Mais je vous dirais d'avance qu'il ne faut pas avoir peur en disant que sur tout terrain marécageux qu'on peut avoir peur d'y construire. Non, vous voyez qu'il y a des ponts qui sont construits sous eau, il y a des bâtiments qui sont construits sous eau. Si vous allez à Dubaï, vous connaissez ce qu'on appelle le palmier de Dubaï, qui est construit dans la mer, ce qui est pratiquement facile aussi de construire dans ces genres de terrain. Voilà.
Bien, nous avons un premier auditeur en ligne, Eliezer. Il nous appelle de Maragui, en province orientale. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, Eliezer.
Je crois que la plupart des victimes sont souvent reculées dans des coins reculés du pays. Souvent dans des villages, il y a des gens qui construisent des maisons à des endroits marécageux, alors qu'ils créent des accidents. Alors ma question est que est-ce que l'État ne peut pas vraiment faire en sorte que qu'on puisse vraiment avoir cette que la population puisse être proche de la population qui vit dans des endroits reculés du pays, puisse avoir accès à des spécialistes très facilement pour, par exemple, amener l'invité vient de dire maintenant, même il vient de dire, prendre le sol, amener ça au laboratoire. Est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment approcher la population des spécialistes pour permettre cette construction-là,
d'une manière... Oui, Lézère, vous dites qu'à Mahagui, il y a des gens qui construisent sur des terrains marécageux et il y a des accidents qui s'en suivent. De quel type d'accident
oui,
il s'agit
alors. Il y a vraiment carence de spécialistes, et c'est ça le problème.
D'accord. Apollinaire Kitingé.
Ouais. Allez, merci beaucoup mon ami Mahagui. Je dois vous dire que c'est sûr qu'on se retourne toujours vers l'État. L'État, c'est le premier responsable qui est censé protéger les personnes, les vies humaines, bien sûr. C'est-à-dire, et c'est l'État lui-même qui octroie les permis de morcellement à ce type de terrain. Parce qu'un individu qui s'improvise et occupe un espace de l'État sans autorisation, il est poursuivi. Mais s'il s'y trouve et il s'y installe, c'est-à-dire que quelque part, c'est l'État lui-même qui lui autorise. Mais je vous dirais dorénavant que l'État est censé trouver des solutions à ces problèmes, parce qu'au fur et à mesure que nous avons la démographie qui a une croissance assez élevée, je ne vous donnerai pas les chiffres sans pour autant avoir l'exactitude, mais nous sommes censés le connaître. Et vous savez, les spécialistes dans nos provinces connaissent une carence. Pourquoi? Parce que tout est centralisé. S'il arrivait à Mahagui, on a une administration au niveau de Kisangani, qui la capitale provinciale, on essaie un peu de décentraliser à Mahagui, à Bounia, à Ituri, on retrouve des structures fiables à mener les études. Je crois qu'on pourrait éviter ce genre de problème. Les architectes, les ingénieurs, vous les trouvez partout, mon cher ami. C'est parce qu'on ne leur donne pas les responsabilités, on ne leur donne pas aussi les moyens nécessaires. Quand vous retrouvez un ingénieur à la province ou à l'intérieur, c'est juste peut-être pour surveiller ou coordonner les travaux de certains infrastructures de l'État, soit les écoles qu'on réhabilite, soit c'est les hôpitaux, ou a fortiori certains particuliers qui a mis l'argent à disposition de ces spécialistes pour construire. Vous irez dans les services de l'État. Je crois que ce sont le meuble vieux de 70 ans qui vous regarde. Ou poussiérez, on ne retrouve plus des agents qualifiés à l'État. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peut-être une motivation, ils n'ont pas un salaire nécessaire pour nous les bouts du mois. Ils se lancent sur
d'accord. D'autres spécialités. Voilà. Alors, Apollinaire Kitingé, quel type de fondation correspond à un terrain marécageux? Sur un terrain marécageux, on peut ériger quel type des fondations ou quel type de construction, je veux dire, en ensemble?
Bon, on a plusieurs types de fondations. J'évoquerai trois ou quatre ou deux. Vous avez les fondations sur pied ou avec des semelles isolées. Vous avez les fondations sur pilotis que vous retrouvez dans... Peut-être les gens ne comprennent pas. Quand vous allez à l'Onatra du côté des Beaumarchais, je crois que vous trouverez des types de fondations. Soit vous avez aussi les fondations en type de radio général, comme j'ai dit tantôt, on peut arriver à renflouer soit les sables ou soit à apporter un remblai en terre sur un espace qu'on remonte au niveau dépassant les eaux ou les humidités et sur au-dessus desquelles on va couler un béton d'une épaisseur assez suffisante par rapport à la structure à porter et sur laquelle on trouve cette fondation en radio générale. Il n'est pas aussi impossible de faire un semelle filante, mais à cela, on fait aussi une structure en béton armé, en y mettant des adjuvants dans le béton pour durcir ou augmenter sa résistance par rapport à l'eau. Il y a d'autres aussi, qu'est-ce qu'ils font? On met un lit de sable. Au-dessus de ce lit de sable, on essaie de faire une semelle. Et sur cette semelle, on peut y ériger même des moellons. Et ces moellons-là, en utilisant un mortier à durcissement rapide, ou encore, on essaie de prendre les membranes d'étanchéité qu'on peut faire au-dessus de ce moellon, on va démettre une longrine qui ne permettra pas les remontées des eaux il y a aussi des techniques spéciales. Qu'est-ce qu'on fait? Avec des pompes, on essaie de pulvériser un mortier qui peut étancher la SIFA, soit ça peut être en polyvénile, ou soit à d'autres membranes, ou à la mousse de verre qui est incorporée par des structures hydrophiles qui ne permettent pas à la remontée capillaire des eaux et pour maintenir la structure un peu stable et solide. Voilà.
Nous avons un autre auditeur en ligne, Augustin. Il nous appelle des Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, Joine Kachama. Bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute, Augustin.
Bonjour, monsieur. Ah oui, j'ai vraiment trois questions à poser à notre invité, tellement que le débat est tellement essentiel. La première question que je voulais poser à notre invité est de savoir, pour les milieux ruraux, quels sont les conseils pouvez-vous pratiquer pour la construction en terrain marécagé, tant que là-bas il n'y a pas des ingénieurs civils, soit des architectures et des architectes.
Mmh.
Maintenant, ma deuxième question est de savoir, la fondation des types irradiés est conseillée seulement pour les terrains marécagés ou bien c'est pour tous les terrains qu'il faut planter ou bien qu'il faut construire? Et la troisième question est de me donner la différence entre les trois types de personnes ici, l'architecte, l'ingénieur civil et un topographe. Il y a vraiment des différences. C'est ainsi mes questions. Et merci aussi.
Bien. Apollinaire Kitenge.
Merci beaucoup, mon ami. S'il faut conseiller les gens qui sont dans les milieux ruraux, où on ne trouve pas tous les moyens nécessaires pour répondre à ces exigences, et je comprendrai qu'il faudra peut-être demander aux autorités compétentes d'éviter à ce que les gens y construisent à ce terrain-là, soit chercher un lotissement qui est un peu éloigné de ça, de manière à permettre à ce que ces gens soient établis à des espaces assez qui peuvent être épargnés de ces dangers. Sinon, ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Bon, c'est peut-être aussi, ils n'ont pas assez de moyens, mais on utilise aussi le bois. Le bois, on les fait en forme de pilotis. De manière, quand vous allez au Bangladesh ou en Asie, ils ont aussi des situations pareilles. Mais ils construisent soit en bambou, soit en bois, en y mettant aussi en surface et des structures. Mais qu'à cela ne tienne, je ne peux pas les conseiller de cette façon-là, parce qu'il n'y a pas aussi de moyens. Il y a aussi des endroits où ils n'ont pas du bois. Voilà. Je voudrais aussi vous apaiser pour dire que les radios générales n'est pas seulement appliqué à un terrain marécageux, même à un terrain sec. Ou,
oui, Apollinaire. Oui, veuillez nous expliquer, nous qui ne comprenons pas, c'est quoi une construction ou une fondation de type irradié.
Voilà, les radios générales, c'est-à-dire une fondation qui prend toute la ici toute la zone à ériger. C'est-à-dire, on essaie de faire soit des caissons en délimitant les espaces à construire, et on fait pratiquement, c'est un béton armé, hein, avec des armatures, on utilise du ciment, on utilise de la caillasse, et puis on coule, hein, on fait les coulages sur tout cet espace, mais en laissant aussi les colonnes qui vont monter, les attentes, mais l'épaisseur de ces radiers qu'on passe général, ce n'est pas quelque chose comme 10 cm ou 20 cm. On va au-delà peut-être de 80 cm ou d'un mètre même plus. Ça dépend de l'infrastructure à supporter et des différents niveaux qu'il y a à être érigé au-dessus. Voilà. Je crois que je me suis fait comprendre à mon ami. La différence, c'est qu'il a demandé l'architecte, l'ingénieur civil et les topographes. Vous savez, ce sont les gens qui font presque les études d'ingénieur. À la seule différence, c'est que l'architecte, il est appelé, c'est un homme scientifique, bien sûr, qui est appelé à faire ses 6 ans d'études universitaires dans le domaine d'architecture. Il est concepteur, il est quelqu'un qui a fait des sciences de base et qui est appelé à réfléchir et à concevoir, à conduire et jusqu'à à la fin d'un projet. Voilà, et quelqu'un qui peut aussi apporter son expertise dans différents domaines. L'ingénieur civil, c'est quelqu'un qui a fait aussi les études d'ingénieur, soit en construction, soit en métallurgie, soit en mine. Mais ici, nous parlons des constructions. C'est quelqu'un qui est appelé à faire des études, des calculs sur des structures qui seront posées sur différents sols, ou soit ça peut être métallique, soit ça peut être en béton, soit ça peut être en précontraint, ou bien en symbiose, hein, en multidimensionnel, ou multidisciplinaire. Voilà. L'ingénieur topographe, peut-être on l'ignore, c'est le précurseur de tout le monde. Avant même que l'architecte, l'ingénieur civil y accède au terrain, c'est lui qui est le précurseur. C'est lui qui va prendre certaines données du terrain, les reliefs du terrain, à fortiori s'il faut donner les courbes de niveau, les profils en long, les profils en travers. Vous avez la coupe du terrain qui peut vous renseigner sur quel type de terrain qu'il faut vous trouver. La pente, la dénivellation du sol. Voilà, c'est celui qu'on appelle ingénieur topographe, qui fait aussi actuellement, on fait aussi la confusion, hein, parce que ceux qui sont appelés à faire le lotissement, à faire les alignements, tout et tout, sans pour autant y associer. Il y a aussi des urbanistes qui devaient être en jeu. Voilà.
Oui. Alors, quelles sont les conséquences si on construit sur un terrain humide sans avoir pris des précautions au préalable?
Alors, si on ne prend pas toutes les précautions au préalable, ne pas répondre à toutes les exigences techniques ou aux procédés généraux des constructions, et on le retrouve souvent, quand vous allez peut-être à Kingaboa, à Limete, à Yolo, ou partout ailleurs, parfois dans la ville, là où vous avez à Mombélé, vous avez tendance à voir des murs qui s'humidifient en permanence. Soit vous avez des remontées au niveau des carreaux. Vous savez, souvent, vous avez ces carreaux. On dit, non, à ma maison, il y a l'eau qui sort en dessous des carreaux, ou soit au niveau du mur. Certaines conséquences, c'est quoi? C'est parce que quand des pièces ne sont pas ventilées, vous avez aussi les jeunes, les enfants, ou même des adultes qui présentent des maladies, des symptômes pulmonaires. C'est un inconvénient. Et vous avez aussi cette humidité-là peut monter jusqu'au niveau des murs. Et les murs qui s'affaiblissent davantage, ou soit vous avez carrément la permanence de cette humidité au milieu. Voilà.
Voilà. Docteur Richard Ifakinshasa, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Je voudrais demander à notre ami l'architecte, au-delà des conseils qu'il donne en matière de construction en zone marécageuse, quand est-ce que les médecins et les architectes se mettront ensemble pour débattre des problèmes de santé qu'engendre ou que procure certains types de construction? Parce que quand ils parlent, nous faisons ceci, nous faisons cela, ils utilisent aussi de l'amiante. Ailleurs, l'amiante est prohibée. Et ici, chez nous, l'amiante est encore là, avec son cortège de problèmes, de cancer de poumon, de fibrose de poumon, etc. Merci beaucoup.
Bien. Apollinaire Kitenge.
Merci beaucoup, Dr. Richard. Bon, c'est sûr qu'à l'espace d'une émission, on ne peut pas évoquer tout ce dont on a besoin. Hein. Je crois que les questions ont été liées beaucoup plus au terrain humide, mais en ce qui concerne les maladies liées aux matériaux de construction utilisés, c'est une autre paire de manches. Et je vous dirais que quand je dis que l'architecte ne travaille pas seul, à la longue, il fait appel même aux pharmaciens, même aux médecins, pour que savoir certains teneurs des matériaux qu'on utilise, pour ne pas mettre en danger la santé des ouvriers. Ce qui est vrai, vous savez que l'amiante est encore utilisé ici chez nous, mais pas à une échelle très très grande. Même en Europe, si on a évité à utiliser l'amiante, c'est parce que sa toxicité ou bien son aspect cancérigène qui a poussé à ce qu'on puisse interdire. Et cet aspect cancérigène est beaucoup plus aux gens qui travaillent dans ces usines en faisant l'inhalation de certains particules qui sont mis à la nature. Voilà. Mais il y a aussi certains amiantes qui sont utilisés, mais en y mettant aussi une couche de protection dessus, et on arrive à trouver que cela n'est pas aussi nuisible à la santé. Mais le docteur Richard n'a pas aussi tort. ce sont des spécialistes qu'il faudra aussi approcher quand on se trouve face à cela. Vous savez, sous notre siège, vous avez des architectes qui sont aussi spécialistes, qui travaillent sur les maladies liées aux matériaux de construction. Bref, ici chez nous, nous avons l'OCC. Quand les matériaux entrent, il y a l'OCC qui est censé donner toute la teneur ou toute sa capacité de nuisance à la santé de la population. Et il y a aussi l'OCC qui est aussi un partenaire avec lequel certains spécialistes en construction se réfèrent, à ce que je sache. Voilà.
On retient pour terminer, Apollinaire Kitenge, avant de construire sur un terrain marécageux, il est important d'aller voir les spécialistes et les architectes pour les architectes pour faire l'étude du sol, prélever les échantillons qu'on va apporter au laboratoire pour étudier la texture du sol. Et cela nous permet d'éviter beaucoup d'autres conséquences plus tard si on construit sans recourir aux spécialistes bien avant. Merci pour toutes ces informations. Apollinaire Kitenge, nous rappelons que vous êtes un architecte et non ingénieur. Et bonne journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, Jolie, et merci à tous les auditeurs. Merci.